إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous en sommes au chapitre de celui qui renie un des noms ou attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala du livre de l'unicité de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Le lien qui existe entre ce chapitre et l'ensemble de l'ouvrage est considéré sous deux angles. Le premier angle, l'unicité d'Allah concernant les noms et les attributs d'Allah, est une preuve de l'unicité d'Allah dans son adoration. Deuxièmement, le reniement d'un des noms ou attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est une forme de polythéisme et de mécréance qui exclut de la sphère de l'islam, à condition que le nom ou l'attribut renié soit authentiquement établi, que la personne concernée sache qu'Allah l'a affirmé à propos de lui-même, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré cela, elle le renie. Le reniement ici signifie nier totalement la réalité du nom ou de l'attribut, ce qui est une mécréance, car cela revient à considérer les propos du Coran et de la Sunna comme mensongers. Il faut savoir aussi que le nom de ce chapitre, chapitre de celui qui renie un des noms ou attributs d'Allah, c'est-à-dire quel est le statut juridique de celui qui renie un des noms ou attributs d'Allah, et son statut est la mécréance, comme le cheikh ici a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, les polythéistes et les mécréants de la Mecque dirent: nous ne connaissons pas de Ar-Rahman, de tout miséricordieux, si ce n'est Ar-Rahman de l'Yamama. Ils ont donc renié le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala Ar-Rahman. De ce nom dérive l'attribut de miséricorde, Ar-Rahman. En effet, chaque nom d'Allah tabaraka wa ta'ala recèle un attribut. Et chaque nom d'Allah désigne deux choses à la fois qui sont l'être, al-dhat, et l'attribut, al-sifa, qui dérive du nom. C'est pourquoi nous disons que de chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dérive un attribut. Puis le cheikh a cité, Al-Bukhari rapporte dans son recueil authentique, Ali a dit, parlez aux gens en fonction de leur compréhension. Voulez-vous qu'ils traitent Allah et son prophète de menteurs? Ceci indique que certaines branches de la science ne conviennent pas à tout le monde, comme certaines parties du tawhid des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala qui ne sont pas à la portée de tout à chacun. Par conséquent, on ne doit pas faire étalage de certains détails précis des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala devant le commun des musulmans, mais on leur demande d'y croire globalement en se référant aux éléments clairs du Coran et de la Sunna authentique. En effet, une des causes du reniement des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par les gens est de leur parler de noms et d'attributs divins qu'ils ne comprennent pas. Il est donc du devoir du musulman en général et de l'étudiant en sciences islamiques en particulier de faire en sorte que les gens ne considèrent aucune parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme mensongère. Ce qui arrive lorsqu'on leur parle de concepts qu'ils ne connaissent pas et que leur raison n'arrive pas à assimiler, ou bien
quand on utilise un langage beaucoup trop technique qui n'est pas à la portée des gens. Il est important au prédicateur, à l'étudiant en sciences, d'utiliser des termes qui sont clairs pour le commun des gens. Et quand il utilise des définitions techniques, il les explique clairement, d'une manière simplifiée. Il faut adapter le discours aux auditeurs. Sinon, on peut être la cause que les personnes comprennent mal.
Puis le cheikh a cité, Abdurrazzaq rapporte d'après Ma'mar, d'après Ibn Taous, d'après son père, qu'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, vit un homme sursauter en entendant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnait les attributs divins. Ibn Abbas dit alors, de quoi ces gens-là ont-ils peur? Ils acceptent aisément les propos clairs du Coran et de la Sunna, mais s'égarent en présence des propos équivoques. Cette narration a une chaîne de transmission authentique. Car cet homme avait compris de l'attribut que celui-ci impliquait l'anthropomorphisme et la ressemblance d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses créatures. L'homme eut donc peur de cet attribut. Or, le devoir du musulman, lorsqu'il entend un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala cité dans le Coran ou dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est de le concevoir comme on conçoit les autres attributs. Cette conception consiste à affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans description du comment, ni comparaison. C'est pourquoi Ibn Abbas dit alors, de quoi ces gens ont-ils peur? C'est-à-dire, que redoutent-ils? Ils acceptent aisément les propos clairs du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire que quand on s'adresse à eux avec le Coran ou la Sunna par des propos qu'ils connaissent, leur cœur les accepte. Mais ils s'égarent en présence des propos équivoques. À savoir qu'en présence de propos du Coran ou de la Sunna que leur raison n'arrive pas à assimiler, ils s'égarent, paniquent, frémissent, interprètent, nient ou renient, ce qui est une cause d'égarement clair. Et quand on dit équivoque, ce terme désigne ici les concepts dont la compréhension échappe à certaines personnes. Mais bien sûr, ils sont clairs pour les gens doués de science qui ramènent les paroles équivoques aux paroles claires du Coran et avec ceci, elles s'éclaircissent.
Puis le cheikh rapporte, et lorsque les membres de la tribu de Quraysh entendirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam citer le nom Ar-Rahman, ils désapprouvèrent cela, c'est pourquoi Allah révéla à leur sujet, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Renier l'attribut ou le nom, c'est-à-dire ne pas croire en sa véracité, est une abjuration et une mécréance, contrairement à l'interprétation que la langue arabe pourrait accepter, qui n'est pas lointaine, qui est une bid'a et qui est une mécréance mineure. Puis le cheikh a cité les points à retenir de ce chapitre. Premièrement, l'annulation de la foi lorsqu'on le renie un des noms ou attributs d'Allah. Deuxièmement, l'explication du verset de Surat Ar-Ra'd. Troisièmement, éviter de parler de choses que l'interlocuteur ne comprend pas. Quatrièmement, la cause est que cela peut pousser l'interlocuteur à considérer les propos d'Allah et de son prophète comme mensongers, même involontairement. Cinquièmement, les propos d'Ibn Abbas concernant celui qui désapprouve un des noms ou attributs d'Allah, cette désapprobation est une cause d'égarement.